Chapitre 3. Eliane Gelly était une enfant étrange, craintive, capable pourtant des imprudences les plus folles, autoritaire et résignée. À la mort de son père, homme imprévoyant qui croyait, selon une expression de sa femme, qu'il vivrait toujours, Eliane et Madame Gelly vinrent se fixer rue Rosa Bonheur dans un modeste logement. Ce changement de condition affecta Madame Gelly au point que, peu à peu, son caractère s'aigrit. Habituée qu'elle avait été à vivre dans l'aisance, sous la protection d'un homme actif, dépensier, fantasque, qui emplissait l'appartement de ses projets, de ses amis, de sa bonne humeur, elle s'était retrouvée seule avec son enfant de 8 ans, sans autre moyen d'existence que ceux que lui faisait parvenir une famille qui l'avait enviée. Aussi ne sortait-elle presque plus, tellement le spectacle du bonheur d'autrui lui était pénible. Elle s'était repliée sur elle-même. À part quelques relations, parmi lesquelles se trouvait Madame Aspie, elle ne fréquentait personne. Tant de fois, le mouvement qu'elle avait voulu donner aux choses avait été arrêté par le hasard ou par les événements, qu'elle se désintéressait à présent de tout. Cependant, elle était encore jeune. Mais elle n'avait plus ni coquetterie, ni désir. Le besoin de paix qu'elle éprouvait avait pris tournure de maladie. Le moindre bruit, la moindre complication, la moindre entorse aux habitudes quotidiennes, la plongeait dans une telle surexcitation qu'elle se révoltait, elle qui passait pour la douceur même. Elle perdait alors la maîtrise d'elle-même et l'envie de jeter dans la rue tout ce qu'elle possédait se faisait plus impérieuse, car dès que quelque chose ne se passait pas comme elle le désirait, elle parlait de défenestration. Aussi, pour ne pas en arriver là, se surveillait-elle sans cesse, s'efforçait-elle d'acquérir une insensibilité complète et de ne se laisser émouvoir par rien. Mais cette volonté défaillait pour si peu de choses que ses résolutions étaient inutiles. Il suffisait que des locataires de la maison déménageassent pour qu'elle ne dormît plus et souffrit autant que si on l'eût privée de tout. La pensée qu'on allait et venait près d'elle, qu'on était content de partir ou de s'installer, lui était intolérable. Elle en eût eu les moyens qu'elle se serait rendue à la campagne pour ne rentrer qu'un mois après. Rencontrait-elle, en faisant son marché, des enfants qui encombraient le trottoir, qu'elle en était indisposée pour le reste de la journée. La seule occupation qui la distrayait était de compter. Avant de sortir, elle calculait, à 5 centimes près, ce que lui coûteraient ses achats. Puis, après avoir atteint le prix le plus juste, elle s'appliquait, une fois dehors, à gagner encore quelques piécettes. Ces petites sommes, qu'elle arrivait à soustraire à force de marchandage aux commerçants, elle les épargnait, jusqu'à ce qu'elle lui permisse d'acheter un objet inutile. Elle n'avait alors aucun remords. Ainsi que l'argent qu'elle tirait de la vente de vieux journaux, elle les dépensait avec une joie mauvaise, comme si, à ce moment, elle eût exercé une vengeance. Ce fut donc à côté d'une mère aigrie, chez qui, maintenant, apparaissaient les premiers signes du délire de la persécution, qu'Eliane grandit. Le face de jadis était resté gravé dans sa mémoire et s'opposait, quoique les années le rendissent toujours plus trouble, avec la même force, à la vie médiocre qui lui avait succédé. Bien qu'elle ne se souvînt que peu de l'aisance passée, elle désirait aujourd'hui exactement la même vie qu'elle eût connue sans la mort de son père, comme si le changement de condition survenu 10 ans auparavant l'eût surprise femme. La musique, la danse, le chant l'attiraient. Elle rêvait de devenir une grande actrice, entourée de fleurs et d'hommages. Madame Aspie, comme ces détenteurs de valeurs pauvres qui espèrent que l'une d'elles, en montant, les dédommagera de leur perte, donnait gracieusement des leçons à la jeune fille, ainsi qu'à d'autres d'ailleurs, jouant ainsi sur la réussite d'une seule d'entre elles, d'autant plus, pensait-elle, qu'un changement de fortune est toujours possible. À peine atteignit-elle l'âge de 14 ans que sa mère déjà la traita en femme. Jamais elle ne demandait à sa fille ce qu'elle avait fait dans la journée, ni qui elle avait vu. Elle la laissait se vêtir comme elle l'entendait, ne lui faisait aucune observation si elle se mettait de la poudre, si, chaque quinzaine, elle changeait de coiffure. Madame Gelly avait accepté son sort. Elle eût eu conscience de se rebeller si, à l'endroit d'Eliane, elle avait manifesté quelque volonté. Tout irait comme le hasard le déciderait, songeait-elle. L'avenir était inscrit d'avance. À quoi cela eût-il servi de s'opposer aux forces invisibles auxquelles elle croyait chaque jour davantage, depuis que son mari en avait été, selon elle, victime? Eliane s'élevait toute seule. Elle passait ses journées dehors, dans les musées, chez des amis dont les parents avaient connu son père, dans les expositions. Elle ne rentrait qu'à l'heure des repas, non sans une appréhension, tellement le logement était triste et inconfortable, lorsque, venant de prendre le thé chez une amie, le contraste la frappait plus encore. L'époque de l'année la plus pénible était pour elle les grandes vacances. Ses amies étaient parties, et, seule dans Paris, elle avait alors ce sentiment qui ne quitte jamais ceux qui l'ont eu jeune, de vie à part. Après avoir laissé Pierre Nehard, elle monta le plus vite qu'elle put, comme si elle eût été poursuivie, l'escalier de sa maison, et, prenant sa clé, car elle avait une clé, entra chez elle. Sa mère, bien qu'Eliane eût prétendu qu'elle dormait, cousait dans la salle à manger. Elle alla l'embrasser. Madame Gély ne leva même pas la tête, et comme l'ombre de son enfant s'était posée sur son ouvrage, elle se pencha un peu afin de ne pas s'interrompre. Il y avait partout un désordre que l'on n'eût pas imaginé dans un appartement habité par une femme et une jeune fille. Des tapis roulés étaient appuyés contre un mur. Sur chaque siège traînait quelque chose. La nappe repliée ne couvrait que la moitié de la table. Sur la partie nue, il y avait encore les assiettes ayant servi au dîner. Le haut du buffet était encombré de cartons, de paquets sans forme, attachés avec des cordes disproportionnées à leur grosseur. Le sol était jonché de bouts de fil, de triangles d'étoffe, de bobines, d'étiquettes décollées. Eliane resta un instant immobile, puis, sur l'injonction de sa mère, s'enleva de la lumière. Elle semblait ne point appartenir à ce décor et se trouvait là, ainsi qu'une jeune femme chez une couturière. Et sans doute le sentait-elle, car chaque fois qu'elle rentrait, ce n'était qu'après avoir erré une demi-heure dans l'appartement qu'elle se décidait enfin à ôter son chapeau, à poser son sac. « Tu n'as pas besoin de moi ?» demanda-t-elle à sa mère. Celle-ci répondit non d'un mouvement de tête. Eliane la regarda encore un instant. On sentait qu'elle hésitait à aller se coucher ainsi, sans avoir échangé d'autres paroles. À la fin, elle dit, avec l'espoir que sa mère lui parlerait, « Je vais faire un dodo, un bon petit dodo. »« Bien, » fit simplement Madame Gély. Eliane gagna sa chambre. Celle-ci n'avait rien d'un intérieur de jeune fille. Une immense armoire à glace cachait un mur tout entier. Et, pour éclairer les lourds meubles qui s'y trouvaient, une petite ampoule électrique sans abat-jour était fixée au plafond. Il y avait pourtant, dans un coin, une table, couverte d'une jolie étoffe à fleurs qu'Eliane avait arrangée avec amour. Sur cette table, appuyée au mur, se dressait une petite étagère laquée, dont chaque rayon était bordé par une balustrade et dont le fond était tendu d'une étoffe froncée. Elle supportait des bibelots, quelques livres, des photographies. Sur la table, en face de la chaise, se trouvait un sous-main de cuir, puis, un peu plus loin, un plumier, un encrier, un vase, au col si étroit qu'on ne pouvait y mettre qu'une fleur. La jeune fille était à peine depuis quelques minutes dans sa chambre lorsque sa mère vint la retrouver. « Tu devrais, tu sais, Eliane, te décider à continuer ta couture. Il ne faut compter sur personne. Si tu travailles bien, tu seras à l'abri pour toute ta vie. » Madame Gély tenait son ouvrage à la main. Après avoir prononcé très calmement ces quelques mots, elle s'éloigna sans en dire davantage. Restée seule, Eliane s'assit devant sa petite table et parut rêver. À cette heure, la fatigue tirait ses traits. Elle semblait n'avoir pas compris ce que sa mère venait de lui dire. Tout en paraissant réfléchir, elle resta ainsi un long moment immobile. Puis, tout à coup, elle eut un geste d'enfant pour frotter son bras droit qui s'était engourdi, un geste un peu sauvage qui laissait deviner qu'elle n'avait à présent qu'une préoccupation, celle de se débarrasser de cette douleur. Finalement, elle se leva. Tout doucement, comme si elle eût craint qu'on ne l'entendît, elle ouvrit la fenêtre. Après s'être penchée au dehors petit à petit, elle regarda la rue. Celle-ci était déserte. Alors elle s'accouda sur la barre d'appui et ne bougea plus. Un vent, tour à tour tiède et froid, lui caressait le visage. Des nuages, illuminés par la lune, volaient dans le ciel qui prenait des airs de paysage polaire. Soudain, elle eut froid. Elle tira les rideaux, fit quelques pas, s'allongea et brusquement se mit à pleurer. Elle se sentait perdue au milieu du monde. Pas un être ne se tournait vers elle. Il lui semblait, dans son innocence de jeune fille, que même cet homme qui l'avait accompagnée n'aurait plus voulu la revoir s'il avait su qu'elle vivait dans une telle chambre. Ses pleurs redoublèrent. 1 heure du matin sonna. Elle se leva et retourna à la fenêtre. De l'autre côté de la rue, dans une maison neuve, un étage était éclairé. Une femme, vêtue d'une robe de soirée, allait et venait. Tout à coup, cette inconnue jeta un objet loin d'elle. Ce geste, sans qu'elle eût su dire pourquoi, plongea Eliane dans une telle nervosité qu'elle quitta brusquement la fenêtre et se mit à trépigner de colère en se tordant les mains au point de les meurtrir. « Maman » cria-t-elle d'une voix perçante. Puis, les doigts devant le bas de son visage, les yeux inquiets, elle écouta, craignant maintenant que sa mère ne l'eût entendue. Rien ne bougeait. Un tremblement l'agita des pieds à la tête. « Maman !» cria-t-elle de nouveau. Comme la première fois, elle attendit avec l'espoir que cet appel n'avait pas été perçu. Mais des pas se firent entendre. Alors, ainsi qu'une folle, elle se jeta sur son lit et éclata en sanglots. « Mais qu'est-ce que tu as, Eliane ?» Madame Gély s'était arrêtée sur le seuil de la porte. Apercevant sa fille, le visage enfoui dans un oreiller, elle s'approcha et, sans se pencher, caressa l'épaule de son enfant. « Allons, calme-toi. Qu'est-ce que tu as donc encore aujourd'hui? Je vais t'apporter un peu d'eau. » Sans se soucier davantage d'Eliane, Madame Gély s'en fut chercher un verre, toujours avec calme, comme si ce qui venait de se passer était habituel. La jeune fille, les oreilles bourdonnantes de ses propres sanglots, n'avait pas entendu sa mère partir. Peu à peu, elle s'apaisait. « Maman » appela-t-elle doucement, le visage toujours caché dans l'oreiller. N'entendant pas de réponse, ses jambes, qui n'avaient cessé de remuer, s'immobilisèrent. « Maman !» répéta-t-elle au bout d'un instant avec plus de force. Finalement, elle s'imagina que sa mère ne voulait pas lui répondre. Durant quelques secondes, sa respiration s'arrêta, puis elle eut une nouvelle crise. « Maman ! Maman ! Maman !» se remit-elle à crier de toutes ses forces. Pourtant, lorsque Madame Gély revint, elle trouva sa fille assise sur le lit, immobile, le visage grave, les cheveux défaits. « Enfin, veux-tu me dire ce que tu as ? » demanda-t-elle avec lassitude. « Tu devrais être déshabillée, tu devrais être couchée, tu devrais dormir. » Eliane ne parut pas entendre. Sa mère approcha le verre des lèvres de la jeune fille. Elle les entr'ouvrit, mais ne but pas. Madame Gély pencha un peu le verre. Et l'eau, après s'être répandue sur le menton de son enfant, coula sur sa poitrine. « Tu ne veux pas boire ?» Eliane ne répondit pas. Une mèche lui cachait un œil. Elle regardait cependant fixement devant elle. Soudain, de la douceur et de la tristesse qui émanaient d'elle, jaillit une expression de colère. « Je veux qu'on me laisse ! Je veux qu'on me laisse !»« Je te dis de dormir !» répéta Madame Gély. « Je vais me coucher aussi !» La mère posa le verre d'eau, jeta un dernier regard sur sa fille et, doucement, comme elle était venue, gagna la porte. Mais, avant de sortir de la chambre, elle s'arrêta, observa un instant l'enfant, puis tourna le commutateur. Immobile dans l'obscurité, elle écouta, cherchant à deviner ce que faisait sa fille. Au bout d'un instant, n'entendant rien, elle ralluma. Eliane était exactement dans la même position qu'avant. « Tu ne veux donc pas t'allonger ?» demanda Madame Gély avant de disparaître dans le couloir. Eliane, une fois seule, demeura un long moment sans remuer. Puis son visage, comme le dos d'une bête revenant à la vie, s'anima. Les lèvres se séparèrent, les yeux fixèrent différents points. Elle se leva lentement, fit quelques pas. Elle était redevenue elle-même. Elle écarta la mèche qui la gênait et, comme si rien ne s'était passé, se rendit à la salle à manger. Elle mourait de faim. En mangeant une tartine, elle revint dans sa chambre. 2 heures du matin sonnèrent. Cela ne la frappa pas plus que si ça avait été 2 heures de l'après-midi. Pourtant, à certains moments, ses yeux se fermaient et, quand elle les rouvrait, il n'avait plus, durant quelques secondes, la moindre expression. La tartine finie, elle alla se regarder dans une glace. Au même instant, ses paupières s'abaissèrent. Lorsqu'elle les releva, il lui sembla que tout ce qu'il y avait de coloré en elle, ses lèvres, ses prunelles, ses cheveux, étaient d'une teinte grisâtre. Elle avait déjà la respiration douce de quelqu'un qui dort. Pourtant, elle ne se décidait pas à se coucher. Elle se mit à marcher, et comme ses yeux s'étaient encore fermés, elle heurta un siège. Elle eut un sursaut, puis regarda la chaise avec étonnement. De toutes ses forces, elle luttait contre le sommeil. C'était un trait de son caractère de lutter sans raison contre les choses. Elle retourna devant la glace. Les paupières à demi baissées, elle vacillait et, de temps à autre, tendait une main pour s'appuyer. À la fin, tout tourna autour d'elle. Elle essaya encore de résister au sommeil et, se croyant toujours devant la glace, lissa machinalement ses cheveux. Mais elle n'en pouvait plus. À demi inconsciente, elle ôta sa robe, éteignit, fit quelques pas, se laissa tomber sur le lit et s'endormit au moment même où sa tête rencontra l'oreiller.